Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'envolera aujourd'hui pour Washington où il doit rencontrer le président américain Donald Trump. Le chef du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, a recommandé l'arrêt des bombardements sur l'Iran autour du détroit d'Ormuz.
Le président du MR, Georges-Louis Boucher, a rencontré Reza Pahlavi, le fils du chat, vendredi matin à Paris. Et enfin, en Grèce, un incident antisémite s'est produit à Malia, station balnéaire prisée de l'île de Crète. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'envolera aujourd'hui pour Washington où il va rencontrer le président américain Donald Trump.
Une visite éclair dominée par les enjeux sécuritaires du Moyen-Orient, l'Iran en premier lieu, mais aussi Gaza et la Judée-Samarie. Officiellement, le chef du gouvernement israélien sera aux États-Unis pour assister aux obsèques du sénateur républicain Lindsey Graham, figure historique du soutien à Israël. Mais en réalité, Jérusalem souhaite renforcer sa coordination stratégique avec Washington, tout en affichant une unité face aux menaces régionales.
Oui, Benjamin Netanyahou redoute néanmoins une intensification des pressions américaines en faveur de nouveaux retraits israéliens au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
Avant son départ, le cabinet de sécurité a toutefois approuvé les modalités de déploiement d'une force internationale de stabilisation dans les futures zones humanitaires de Gaza. Les premiers contingents composés de 200 représentants marocains et ougandais devraient intervenir exclusivement dans des secteurs ne relevant pas du contrôle du Hamas et en coordination avec Tsahal.
Le chef du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, aurait recommandé l'arrêt des bombardements autour du détroit d'Ormuz.
Selon Axios, il estimait que la campagne avait atteint ses limites dans sa forme actuelle après 2 semaines de frappes qui ont réduit, selon lui, la capacité de l'Iran à menacer les navires marchands dans la région. Pour neutraliser les 20% de cibles restantes, Washington aurait dû relancer une opération beaucoup plus massive. Cette analyse aurait directement pesé dans la décision de Donald Trump de suspendre les frappes contre l'Iran. Le président américain dément avoir agi par manque de munitions en réponse aux rumeurs qui courait ces derniers jours. Un calme très fragile règne désormais dans la région. Téhéran promet de ne pas attaquer Washington tant que les États-Unis n'en frappent pas autant. Du côté israélien, on reste sceptique sur les chances d'un accord et les services de sécurité demeurent en alerte. Le premier ministre israélien se prépare à une visite d'une importance capitale pour la poursuite de cette guerre.
Et le président israélien Yitzhak Herzog s'est entretenu hier avec le roi de Bahreïn, Ahmad Ben Issa Al-Khalifa, un échange téléphonique consacré au renforcement des relations bilatérales et à la situation régionale.
Bahreïn, on le rappelle, a signé les accords d'Abraham le 15 septembre 2020 aux côtés des Émirats Arabes Unis. Le président Herzog a salué ce coup de fil avec le dirigeant bahreïni. Nous avons évoqué le renforcement de l'amitié et des relations de plus en plus étroites entre Israël et Bahreïn, ainsi que l'influence des accords d'Abraham pour renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont également discuté des derniers développements de la guerre et souligné l'importance du dialogue et de la coopération entre les différents pays du Moyen-Orient.
La coopération militaire entre Washington et la monarchie du Golfe atteint un niveau inédit.
Oui, de nombreux pays du Golfe cherchent à consolider leurs boucliers face aux capacités balistiques et aux drones iraniens. Les ventes d'armes américaines aux pays du Golfe ont atteint 41 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre seulement 9 milliards un an plus tôt. Les États du Golfe concentrent leurs investissements sur la défense aérienne, les radars, les systèmes de commandement et également la modernisation des avions F-15, des avions ravitailleurs et l'acquisition d'intercepteurs Patriot. L'Arabie Saoudite demeure le principal moteur de cette dynamique. Riyad a augmenté son budget de défense de 26% en 2026 et pourrait encore accroître ses achats. On est revenu sur l'Arabie Saoudite et son possible rapprochement avec Israël à 8h45 dans la question du jour.
Et puis toujours à propos de l'Arabie Saoudite, les Houthis concentrent leurs attaques verbales contre ce pays plutôt que contre les États-Unis ou Israël.
Notamment des attaques contre le port, l'aéroport d'Aba, des navires ou encore des drones saoudiens. Pour autant, le mouvement n'abandonne pas sa rhétorique terroriste traditionnelle. Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs et victoire à l'Islam. Le chef des Houthis continue d'accuser les États-Unis et Israël d'encourager Riyad à intensifier la guerre contre le Yémen. Mais les dirigeants Houthis ont demandé à leurs partisans d'unifier leur discours autour de la confrontation avec l'Arabie Saoudite. Les Houthis préparent donc l'opinion publique à une nouvelle phase du conflit. Et dans ce contexte du conflit avec l'Iran au Moyen-Orient, le président du MR, Georges-Louis Boucher, a rencontré Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran. C'était vendredi matin à Paris.
Aux yeux du président du MR, le fils du Shah d'Iran doit être considéré comme un des interlocuteurs importants de l'opposition iranienne en vue de la transition en cas de chute du régime des Mollahs. Je n'en vois pas d'autre qui émerge, a-t-il estimé, soulignant qu'il ne se présente pas comme le potentiel futur dirigeant du pays, mais comme une personne en capacité d'assurer la transition. On doit tous œuvrer à la chute du régime, a déclaré le président du MR. Ceux qui disent que cela ne nous concerne pas sont soit naïfs, soit manipulent. Ce sont les mots donc toujours du président du MR, Georges-Louis Boucher. Selon Georges-Louis Boucher, la diplomatie belge devrait s'entretenir avec Reza Pahlavi dans une prise de contact non exclusive. De plus en plus de groupes de l'opposition iranienne se rassemblent autour de sa personne, a-t-il assuré. Le président du MR entend aussi l'inviter à Bruxelles. Des sources haut placées au sein du ministère israélien de la Défense entrevoient des opportunités de collaboration entre Israël et le Caire pour contrebalancer les intérêts navals d'Ankara.
Face à l'Iran qui étouffe les intérêts économiques mondiaux au détroit d'Ormuz et à la montée de la puissance de Turcs en Méditerranée, l'État hébreu et l'Égypte pourraient finir par se rendre compte qu'ils ont intérêt à se coordonner contre l'ingérence d'Ankara dans la région. Bien sûr, d'autres scénarios moins optimistes existent. Le ministre égyptien de la Défense s'est rendu à Ankara le 13 juillet dernier, ce qui, selon certains observateurs, pourrait marquer également un changement structurel dans la géopolitique de la Méditerranée.
Et ce discours pessimiste affirme que l'Égypte et la Turquie se rapprochent et pourraient former un contrepoids à Israël.
Jusqu'à présent, la Turquie et l'Égypte ne voulaient rien avoir à faire l'un avec l'autre, car Recep Tayyip Erdogan et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ne se supportent pas. Mais la Turquie et l'Égypte ont chacune tiré profit l'une de l'autre, en particulier ces derniers mois. Al-Sissi s'assure un accès à une technologie militaire de pointe fournie par la Turquie, tandis qu'Erdogan gagne un partenaire conventionnel de premier plan pour légitimer ses ambitions maritimes. La coopération militaire entre le Caire et Ankara a rapidement évolué. Leurs manœuvres conjointes ces dernières semaines ont révélé ce qui pourrait être un niveau alarmant d'alignement opérationnel. La marine israélienne se renforce face à ces menaces potentielles. Opération commando, coopération accrue avec le Mossad et le Shin Bet, lutte contre les Houthis et traque des dernières capacités navales du Hamas. On a discuté un peu de cette influence et de cette possible alliance entre Israël et le Caire avec Meir Dahan, notre invité, à 8h30. Vous pourrez retrouver cet entretien, comme tous les autres d'ailleurs, sur notre site radiojudaica.be et sur l'application Radio Judaïca.
Alors que le sud-ouest de la France lutte depuis plusieurs jours contre des incendies d'une ampleur exceptionnelle, Israël a proposé hier son assistance aux autorités françaises pour combattre les flammes qui ravagent la Gironde.
L'annonce a été faite par le ministre israélien des Affaires étrangères lui-même, Gideon Saar, qualifiant la démarche de question humanitaire importante. La France traverse l'un des épisodes de feux de forêt les plus graves de son histoire. 220 000 personnes ont été évacuées en Gironde, 42 000 hectares de végétation ont été brûlés. Les flammes se rapprochent dangereusement de la ville de Bordeaux et 250 000 habitants ont dû quitter leur domicile dans le sud-ouest français. À ce stade, les autorités n'ont pas communiqué publiquement sur le fait qu'ils acceptaient ou non l'offre israélienne, ni sur les modalités concrètes que ce soutien pourrait prendre. Emmanuel Macron doit justement présider aujourd'hui à 10h, donc d'ici moins d'une heure maintenant, une cellule interministérielle de crise consacrée aux incendies qui touchent plusieurs régions françaises.
Une réunion qui doit permettre de coordonner l'action des ministères, des services de secours et des autorités locales face à une saison des feux d'une ampleur exceptionnelle. La situation reste particulièrement préoccupante dans le sud-ouest du pays. En Gironde, les incendies majeurs ne sont toujours pas considérés comme fixés. D'autres foyers mobilisent également les pompiers dans les Landes et plusieurs départements exposés à une végétation extrêmement sèche. Selon le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, près de 115 000 hectares hectares ont été parcourus par les flammes en France depuis le début de l'année. Le pays enregistre quotidiennement entre 30 et 40 départs de feu, une situation qualifiée d'inédite par le ministre.
Un incident antisémite très grave a eu lieu en Crète, à Malia, une station balnéaire de Grèce.
Des jeunes Israéliens séjournant dans la localité rapportent que durant la nuit, un groupe a pénétré dans l'hôtel où ils dormaient, un établissement qui accueille de nombreux Israéliens. Ce groupe se serait mis à rechercher les Israéliens et les Juifs présents sur place. Selon les témoignages recueillis auprès des jeunes, un petit groupe s'est d'abord présenté à l'hôtel avant de repartir chercher rapidement du renfort, revenant accompagné de nombreuses autres personnes armées, aussi bien d'armes à feu que d'armes blanches. Mon fils m'a raconté qu'une foule d'hommes est entrée dans l'hôtel avec des fusils et des haches, qu'ils sont montés aux étages où logeaient les Israéliens et ont commencé à passer de chambre en chambre. C'est ce que raconte la mère de l'un des adolescents. Il a témoigné que la police est arrivée lentement et que pendant ce temps, à l'hôtel, on essayait d'aider les Israéliens et de les évacuer, poursuit la mère. À ce stade, il m'avait déjà écrit un message d'adieu. Il m'a écrit qu'il avait peur de la situation. Ce n'est pas la première fois que des militants pro-palestiniens menacent des Israéliens et des Juifs présents en Grèce. Depuis au début du mois déjà, des dizaines de personnes avaient défilé au cœur de Thessalonique vêtues de t-shirts noirs frappés du drapeau palestinien avec pour objectif affiché de protester contre la présence israélienne à Thessalonique et contre la transformation de la ville en destination touristique pour les Israéliens, je cite. Par ailleurs, des organisations en Grèce ont annoncé une journée d'action nationale pour le 9 août, comprenant des manifestations dans les villes, les montagnes et les îles du pays. Cette mobilisation appelle notamment à l'imposition d'un embargo sur les armes, à l'annulation de l'exemption de visa dont bénéficient les Israéliens, ainsi qu'à des contrôles de passeports visant spécifiquement les soldats de Tsahal voyageant dans le pays. On y reviendra demain avec notre invité Anastasio Karabas, Babas, historien spécialiste des Juifs de Grèce, qui se rend direct d'Athènes.
L'Ukraine revendique une frappe contre un navire iranien transportant des armes vers la Russie.
L'Ukraine a confirmé avoir mené une frappe contre un navire iranien en mer Caspienne qui transportait, selon Kiev, des composants destinés à la fabrication de drones et de missiles pour la Russie. Le ministère iranien des Affaires étrangères affirme qu'un marin a été tué et un autre blessé lors de cette attaque, qu'il a qualifié d'acte d'agression susceptible d'aggraver le conflit. L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgeny Kornichuk, a déclaré à la 12e chaîne nationale que le bâtiment ne transportait pas de marchandises civiles comme le soutient Téhéran, mais bien du matériel militaire. Nous pouvons nous attendre à frapper de nouveau ce type de cible, a-t-il affirmé, estimant qu'il s'agit d'objectifs militaires légitimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui salué les très bons résultats des frappes ukrainiennes à longue portée en mer Caspienne. En réaction, des canaux iraniens et pro-iraniens ont appelé à des représailles, certains évoquant même des tirs de missiles contre l'Ukraine. Cette nouvelle escalade intervient sur fond de coopération militaire croissante entre Moscou et Téhéran.
Deux personnes ont été tuées, 5 autres blessées lors d'une fusillade à Seattle aux États-Unis.
Des coups de feu ont été tirés au Seattle Center, un centre dédié au divertissement, à l'éducation et aux arts très populaire et connu pour son emblématique tour d'observation Space Needle. Les forces de l'ordre ont demandé à la population d'éviter les environs.
Et après l'attaque meurtrière lors de la marche de la fierté à Berlin, les autorités allemandes qualifient les faits d'attentats terroristes islamistes.
L'homme suspecté d'être l'auteur de l'attaque de Berlin a été tué par la police. C'est samedi soir qu'un véhicule avait foncé sur la foule à la marche des fiertés de la capitale allemande, faisant au moins un mort et 29 blessés. Vers 18h, le suspect de l'attentat dans le Grand Tiergarten a pu être localisé dans le quartier de Spandau, c'est ce qu'a fait savoir la police. Il aurait couru vers nos forces d'intervention avec une arme blanche, ce qui a conduit à l'usage d'armes à feu par la police. Malgré les mesures de réanimation immédiate entreprises par les pompiers de Berlin, il est décédé sur place, c'est ce que rapporte la police. Tout ce que nous voyons ici indique que nous avons affaire à un attentat terroriste islamiste, c'est ce qu'avait affirmé la police sur les lieux de l'attaque via les mots du ministre de l'Intérieur allemand Alexander vendeur Dobrindt. La police allemande avait lancé un avis de recherche pour retrouver le suspect, un homme de 21 ans qui serait lié au milieu islamiste, selon le porte-parole de la police Florian Natt. L'avis publié par la police montrait un homme mesurant 1m90, présenté comme étant Abdul B. La Knesset se penche aujourd'hui sur les risques d'ingérence étrangère dans les élections israéliennes prévues le 27 octobre.
La sous-commission du renseignement doit entendre le directeur du Shin Bet, David Zinni, sur les moyens permettant de détecter d'éventuels financements occultes destinés à influencer la vie politique israélienne. Le président de la commission centrale des élections, le juge Noam Solberg, participera également à cette réunion. Selon la chaîne Cannes, les autorités s'inquiètent particulièrement de manœuvres menées par des pays hostiles, notamment l'Iran. Des précédentes auditions avaient déjà fait état d'indices concrets de tentatives d'ingérence dans le scrutin.